Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Radio Grenouille et ça vient pas de nulle part. Aujourd'hui, une petite histoire du charbon du Sud.
J'ai été embauché en 1940. Pour m'embaucher, ça n'a pas été bien difficile parce qu'à ce moment-là, on ne passe pas de visite comme maintenant. Alors j'étais à l'hôpital de Rochevelle, on m'a fait mettre tout nu et je me suis présenté devant le docteur. Je suis arrivé devant le docteur, j'étais tout nu complètement, un peu gêné. Le docteur m'a dit, faites voir vos mains. J'ai fait voir mes mains, il m'a dit, ça va, vous commencez demain.
Quand on parle des mines de charbon, on pense tout de suite à l'enfer du Nord, les puits du Pas-de-Calais, les gueules noires de Lorraine, ces régions froides qui servirent de décor au célèbre Germinal d'Émile Zola. Pourtant, du charbon, il y en avait aussi dans le sud de la France, et l'accent traînant de l'ancien mineur Cévenol que l'on vient d'entendre en donne une preuve certaine. Monsieur Aubary avait travaillé dans le plus gros bassin minier du Midi, celui des Cévennes. Un massif de collines de châtaigniers situé à 2 heures de route de Marseille, au-dessus de Nîmes, aux confins du Gard, de l'Ardèche et de la Lozère. Un peu plus loin, dans l'Aveyron, il y avait les mines de charbon de Decazeville. Et tout près de Marseille, il y avait celle du bassin de Provence. La houille, on l'a trouvée du côté de l'étang de Berre, dans le massif de l'Étoile ou dans celui de la Sainte-Victoire. Et au cœur du bassin, il y avait Gardanne. Gardanne, à 30 km de Marseille, Gardanne, où une centrale thermique à charbon s'apprête à changer de combustible. Bientôt, c'est en brûlant du bois que l'électricité sera produite. Ce projet est controversé et nous en parlerons en fin d'émission. Avant cela, nous nous serons penchés sur l'histoire du charbon du Sud, du Moyen-Âge à l'an 2000. De l'extraction artisanale à la fermeture des mines en passant par l'âge d'or du charbon, l'époque industrielle. Mais tout de suite, je vous propose de partir à la recherche des vestiges de cette histoire. Nous rejoignons le bassin minier des Cévennes, à Alès, près de Nîmes. C'est là, sur les berges d'une rivière, que nous allons chercher du charbon. À Alès, dans les Cévennes, l'exploitation du charbon s'est arrêtée dans les années 1980. Mais aujourd'hui encore, la rivière locale, le Gardon, en garde des traces. Sur les berges, notre guide s'appelle Vincent Ravel. Responsable hydraulique à la communauté d'agglomération, il arpente souvent le Gardon. Et il ne lui faut pas plus d'une minute pour y trouver du charbon.
Voilà, il est là. Voilà, donc là, vous voyez, sur un dépôt donc, de matériaux donc, de type limoneux, donc nous avons bien sûr, bon, malheureusement, quelques résidus plastiques, mais il suffit de gratter un petit peu pour sortir des bouts de charbon. Voilà. Donc là, c'est un élément qui fait à peu près 3-4 cm de diamètre. Donc vous voyez qu'il est bien marqué. On voit ses reflets un petit peu miroités. Ce qu'on va faire, on va essayer de le casser pour voir un petit peu sa consistance. Voilà. Donc là, vous voyez, là, il est complètement cassé. Et là, vous voyez vraiment le charbon tel qu'on pouvait l'exploiter dans les mines, donc avec une surface totalement brillante, de type miroir.
Noir, hein, de couleur noire.
Ah oui, il est noir, donc vous voyez, il est quand même bien, bien, bien actif. Donc ceci est quelque chose que vous pourriez utiliser dans un foyer pour le faire pour l'utilisation pour du chauffage pur.
Si ce charbon s'est retrouvé là, c'est parce qu'à la sortie de la mine, avant de le revendre, on le lavait. Et toutes les eaux usées partaient directement dans le Gardon. À l'époque, la rivière était noire, la biodiversité dévastée. Aujourd'hui, sur les rives, là où les inondations ont arraché la berge, on voit encore des strates noires qui témoignent de ce passé charbonné.
Ben là c'est ça, vous avez des strates de couleur un petit peu noirâtre, donc qui montent les particules de charbon. Vous avez des particules qui sont beaucoup plus jaunâtres, ce sont des particules purement de sable. La petite anecdote, c'est que les enfants donc du secteur alésien donc, avaient coutume d'aller récupérer donc, sur les bancs de charbon quand le Gardon descendait au niveau de son niveau. Ils prenaient ces résidus de matériaux, en faisaient des briquettes, et les revendait pour que les gens puissent se chauffer avec. Donc ça vous laisse imaginer la densité de charbon qu'on pouvait trouver sur la rivière. C'est-à-dire qu'à partir de mottes de terre constituées de charbon et un petit peu de limon, les personnes arrivaient à se chauffer avec, et les enfants faisaient une activité économique avec cela.
Et ça, on pourrait encore le faire aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on pourrait le faire, mais dans des quantités beaucoup moins importantes, puisque les strates sont quand même très très fines. Donc ça serait possible sur quelques épaisseurs, mais ça ne permettrait pas d'avoir un système économique viable avec cette activité-là. Et nous l'espérons, puisque sinon, ça impliquerait d'avoir des travaux de terrassement lourds dans la rivière, et ça entraînerait une pollution organique des eaux de surface.
Quand la dernière mine de charbon a fermé à Gardanne en 2003, ce fut la fin d'une histoire longue de plusieurs siècles. Celle de l'extraction du charbon dans le sud de la France, qui avait commencé dès le Moyen-Âge. En Provence, c'était au XVe siècle. Dans les Cévennes, l'exploitation est attestée dès le XIIIe siècle. Elle se faisait alors de manière plutôt artisanale, comme l'explique Laurent Aiglon, historien à la Maison du Mineur de La Grand-Combe, la capitale du bassin houillé des Cévennes.
Ça concerne des simples charbonniers qui vont chercher du charbon pour faire fonctionner ce qu'on appelait à l'époque les fours à chaud et les verreries, parce qu'il y avait quand même pas mal d'industries à cette époque-là pour de la chaux vers Sandras. Donc c'était ce qu'on appelait des balmes, des baumes, des petites galeries qu'on creusait comme ça, sans sécurité. On allait chercher le charbon qui se trouvait à la surface, quoi, le charbon qui affleurait déjà. Donc le charbon a permis, si on veut, il a permis d'apporter une nouvelle source d'énergie, parce que le bois commençait à manquer, parce qu'il fallait beaucoup de bois pour faire le charbon de bois, pour se chauffer, pour faire des tas de choses. Donc le charbon a été un recours pour ces petites industries de chaux et de verrerie. Et donc c'est à partir de cela qu'on a eu les premières exploitations, on va dire, en Cévennes.
À quelle époque c'était ?
Les pays de Sandras, c'est 13e siècle. 13e siècle, et après ça a continué de façon artisanale, pendant très longtemps, pendant des siècles. Mais c'était toujours à la surface, on va dire. Parce que le charbon déjà affleurait, quoi. Donc c'était visible. Par la suite, il a fallu descendre dans des profondeurs beaucoup plus importantes qui demandaient une technique avérée.
Cette exploitation artisanale durera jusqu'au 19e siècle. Mais en Provence, avant même cette période, les mineurs descendaient sous la terre à des profondeurs cependant restreintes. Les mines s'appelaient alors des descenderies, comme le raconte Lucille Decombe, responsable du musée de la mine de Gréasque, près d'Aix-en-Provence.
On a recensé plus de 800 descenderies dans le bassin de Provence. Quand je dis bassin de Provence, c'est de Trètes à l'étang de Vert, en gros, et de la Sainte-Victoire à l'Étoile. Donc plus de 800 descenderies sur deux siècles à peu près, 17-18e et un peu 19e. Or les descenderies, imaginez des pentes ou des escaliers qui vous amènent moins loin sous terre que dans un puits, bien sûr, mais on pouvait se retrouver à 50 ou 100 mètres sous terre. Que des escaliers ou des pentes. Et il fallait aller travailler, mais surtout remonter le charbon. Le plus compliqué, c'est ça. On n'a pas de wagonnets, très peu, parce que ça passe pas. Même dans les galeries, ils avaient souvent des gros paniers, qui, des fois avec des roues ou pas, qu'ils frottaient sur le fer, qu'ils traînaient par terre. Et c'est l'époque où on ne peut pas faire autrement, et en plus les lois n'empêchent pas, le travail des enfants. On commençait à travailler à la mine à 7-8 ans. Les enfants sont les plus pratiques, on va dire ça comme ça, pour passer dans des espaces restreints, à quatre pattes, là où les hommes sont obligés de ramper, parce que c'était des conditions à ce point. Les hommes travaillaient, comme on dit, à col tordu, allongés avec une planche pour se tenir la nuque pendant qu'ils creusaient. En fait, ils raclent avec la pioche. Alors là, c'est vraiment pire que Germinal, même. Un espace des top humaines, on va dire. Des fois, un petit peu mieux, ça dépend des secteurs, mais c'était parfois vraiment ça, le côté top humaine. Et les enfants passaient à quatre pattes, là où les hommes rampaient. Donc, à quatre pattes, on peut tirer un panier. Allongé, même si on est costaud, on peut pas. D'où l'intérêt du recours aux enfants, même si c'est pas génial, bien sûr. Tenez-vous bien, ce qu'il y avait de particulier en plus, c'est que, sûrement payé par la mine, enfin, par les exploitants de l'époque, les médecins qui intervenaient pour des contrôles réguliers disaient que c'était mieux que les enfants commencent tôt, parce que comme ça, leur corps se formait naturellement au travail à la mine, à l'espace dont ils disposeraient après. Que ça valait mieux que d'arriver adulte et que le corps ne peut plus s'adapter.
Au XVIIIe siècle, le travail dans la mine est pourtant des plus dangereux. Les mesures de sécurité contre le manque d'oxygène et contre les gaz du sous-sol, c'est encore le système D.
Tant qu'on n'a pas de flamme protégée au niveau d'une vraie lampe de mineur, on essaie de se protéger un petit peu plus, avec les animaux pour l'asphyxie, et en envoyant un éclaireur avant tout le monde, qu'on appelle souvent le pénitent, pour le côté explosif. Pourquoi ? Parce que l'éclaireur, on le met en danger, c'est vrai. Mais même si c'est pas sympathique de dire ça comme ça, mieux vaut un seul en danger que tout le monde en une seule fois. On n'a pas d'autre solution que de trouver une solution pour minimiser le risque. Enfin, le résultat, surtout. Souvent, c'est des prisonniers condamnés à mort ou à des lourdes peines.
On ne sait pas combien de pénitents ont trouvé la mort dans une explosion souterraine. Mais l'on sait qu'au XIXe siècle, l'exploitation minière prit une autre dimension, à l'époque de la révolution industrielle. Un tournant majeur permis par une invention géniale, la machine à vapeur.
La machine à vapeur, ça a été une révolution pour les mines, en général en Provence ou ailleurs. C'est la première force mécanique vraiment intéressante qu'on ait mise en place. Avec la vapeur, on pouvait à la fois faire fonctionner l'ascenseur, c'est ce qu'on a eu même au Puy des Doicelles pendant longtemps, la machinerie pour l'ascenseur était à vapeur, donc c'était le cas ici aussi, et surtout au départ c'était pour l'exor, c'est-à-dire pour enlever l'eau qui emplissait les galeries. Parce que l'inondation des mines, c'était un gros danger pour les mineurs, déjà à l'époque de ces mines-là, au XIXe siècle. Faire l'exor, enlever l'eau, c'était essentiel pour pouvoir travailler. Et c'est comme ça qu'on a pu approfondir les travaux, creuser plus profond, et avoir des couches de charbon plus importantes, plus rentables, on va dire, hein, ça payait plus, grâce à l'exor. Tant qu'on avait les descendries, on ne savait pas faire d'exor, on creusait pas loin sous terre, parce que c'était trop loin à pied, et parce qu'on ne savait pas traiter le problème de l'eau. D'ailleurs, on ne savait pas ventiler non plus, on avait le problème pour respirer. Ces mines-là enlèvent l'eau, permettent d'avoir de la respiration dans les galeries, on peut aller plus bas et on peut faire des mines plus grandes, plus exploitées.
Alors là, on rentre dans une époque vraiment industrielle, avec des moyens considérables, tellement considérables qu'il faut créer des villes, ce qu'on appelle les villes champignons, hein, comme on a aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut tout créer, il faut créer les infrastructures, il faut accueillir les gens, il faut les loger. Une fois qu'on les a logés, il faut quand même créer des institutions urbaines. Il faut créer des mairies, il faut créer un hôpital, il faut créer des écoles. Donc tout ça, c'est fait vraiment très rapidement, quoi.
Et justement, ce charbon, qu'est-ce qu'on en faisait ? À qui on le vendait ?
Mais les premiers à qui on le vendait, c'était les chemins de fer. Déjà, ils avaient besoin pour fonctionner de charbon, voilà. Donc ça, pour le transport, déjà pour le transport. Et puis aussi pour les bateaux à vapeur. Hein, puisqu'il fallait quand même en Méditerranée, on avait quand même déjà, c'était la colonisation déjà qui avait commencé, donc on avait ce transport maritime qui se développait en Méditerranée. Donc d'abord pour les transports, et puis pour toutes les usines qui se créaient partout, sidérurgiques, métallurgiques, il fallait amener toutes ces industries qui avaient besoin de coke. Vous savez, le coke, c'est un charbon pré-cuit, en fait. C'est un charbon dont on se sert pour faire fonctionner la métallurgie. Donc, il fallait... Donc, ça alimentait pratiquement toutes les filatures. Enfin, le charbon, c'était vraiment la seule source d'énergie. Il n'y avait pas encore le nucléaire. Il n'y avait pas encore le pétrole. Le pétrole, c'est arrivé quand même avec l'industrie automobile. C'est arrivé vers 1900, quoi.
Quel foutu país, país de la Gran Tumbo, passant sous tes rucas, messieurs y coupa lunas, recompense al país, fai de ten que servis. Se venia mourir à la Gran Tumbo, me fare sentarra. Sempre guia i tal di Luca i sulisen per luminir vaient. E curo sarai more scrire sus ma tumbo es un paure minir che repauso all'umbro es d'un paure minir cai si già solo cur. Prendran per guppillon la pica e l'ammassetto, dus birin per la cruz e ambe le trodor, diran che si un rucas che gli aduna l'amor, diran che si un rucas che gli aduna l'amor.
C'était L'eau testament, une chanson de Johann Gers dédiée à ce foutu pays de la Grande Combe dans les Cévennes. Une ville champignon née en 1846 pour les besoins du charbon. En Provence aussi, le 19e siècle voit l'apparition de cités minières. Ces dernières répondent à une volonté patronale, comme nous le rappelle Lucille Decombe du musée de la mine à Gréasque.
L'intérêt des cités minières, c'est qu'on fixe la main-d'œuvre. On évite d'avoir des grévistes ou des gens qui laissent tomber ce métier-là du jour au lendemain et avec un problème pour arriver à faire le travail. Avant qu'on ait ce genre de cité minière, il faut quand même dire que les mineurs étaient souvent mineurs paysans. C'est-à-dire qu'ils avaient une double activité. Et au moment des moissons, ils comprenaient bien ce qui se passait. On laissait tout tomber et la mine, il n'y avait plus de travail, on partait aux moissons. Surtout si c'était son propre champ. Alors, pour éviter ce problème-là, pour avoir un développement véritablement industriel, il a fallu une main-d'œuvre qui ne soit que liée à la mine.
Une main-d'œuvre qui va bientôt manquer de nouveau. Au début du XXe siècle, le patronat va donc aller la chercher à l'étranger. C'est ce que nous explique Laurent Aiglon de la Maison du Mineur à la Grand-Combe.
À la fin de la guerre de 18, beaucoup de gens étaient dans l'incapacité, soit ils étaient morts, soit ils étaient amputés, soit ils étaient... Bon, enfin, toutes ces horreurs. Donc on a fait venir beaucoup de populations immigrées. Donc là, la Grand-Combe s'est transformée, puisque c'est devenu une ville cosmopolite. On est passé avec... je ne sais pas moi, combien de nationalités, je ne sais pas compter, mais peut-être une trentaine de nationalités. Il y a eu d'abord les Polonais qui sont venus en 18-19. Bon, je ne parle pas de la guerre en 14-18, on a eu des Espagnols. Mais on est arrivé avec après des Kabyles en 29, puis dans les années 30, ça a continué. Puis après, on a eu, après la retirada en 38-39, on a eu tous les Espagnols.
Donc les républicains espagnols qui fuyaient le franquisme.
Tout à fait, c'était des réfugiés. Et on a créé ici aussi, dans la ville, des camps de réfugiés. On appelait ça des camps parce qu'on logeait toutes ces populations immigrées qui arrivaient, qui étaient des célibataires, enfin des hommes, donc sans leur famille. Soit ils étaient célibataires, soit ils étaient mariés, mais leur famille ne les avait pas suivis. Et on a créé beaucoup de camps, le camp Fougère, le camp Fournier, le camp des nonnes, etc., où on mettait ces populations étrangères. Le nom de camp est quand même important. Par exemple, le camp des nonnes, je crois que d'abord il y a eu des Espagnols. Et puis 30 ans après, il y a eu des harkis. On est réutilisé tout. Parce que les conditions quand même d'accueil étaient quand même des fois pas optimales. Parce que la Grand-Combe était déjà très peuplée. Et donc le temps de construire pour ces populations, ces camps, c'était quand même de l'habitat normalement provisoire. C'était pas du luxe, quoi. C'était des habitations quand même de fortune. Donc ça veut dire que quand même on a logé des gens dans des endroits qui étaient quand même pas insalubres, c'est pas ce que je veux dire, mais qui étaient dans l'urgence, voilà. Mais ça veut dire que la Grand-Combe sociologiquement elle a changé quand on parle de solidarité entre les gens, ils étaient quand même solidaires entre eux. Moi j'ai une anecdote que je raconte souvent qui m'avait été racontée par Monsieur Chagnac. Monsieur Chagnac, maintenant il est décédé, il avait 90 ans quand il est mort je crois qu'il est mort il y a un an. Hein. Et Monsieur Chagnac me racontait, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans les livres, c'est pas possible, elle ne sera jamais écrite. En 1929, donc il avait 6 ans, 7 ans, je ne sais plus exactement quel âge il avait, 7 ans, 8 ans, oui c'est ça. Et il me dit qu'en 1929, il y a eu une grande grève à la Grand-Combe, qui portait sur le salaire, qui portait sur tout. Et il me dit, la compagnie, comme elle le faisait d'habitude, parce qu'elle savait briser les grèves quand même, donc elle avait décidé de faire venir des tchèques pour briser la grève, c'est-à-dire faire venir de la main d'œuvre pendant que les grévistes ne travaillaient pas. Bon. Et il m'a dit, je me souviens très bien que les grands combiens étaient un peu en colère, parce qu'on allait casser leur grève, et ils se sont rendus à la gare de la Pise, avec des fourches, des machins, tout ça pour repousser les gens, pour dire bon. Et il m'a dit, je me souviendrai toujours, c'est ce que m'a dit Chagnac, il m'a dit, quand les wagons se sont ouverts, il y a eu un grand silence. J'ai entendu les fourches, les outils tomber à terre, parce que les gens, en fait, ils avaient été frappés ce jour-là de voir la pauvreté des gens qui avaient dans les wagons. Il m'a dit, les grands combien sont allés dans les wagons, ont fait descendre les gens, les ont amenés chez eux pour les faire accoucher, et les ont amenés le lendemain sur leur chantier. Alors là, on a un exemple quand même de fraternité, qui n'était pas prémédité, on va dire. Mais ils ont vu arriver des gens beaucoup plus pauvres qu'eux, beaucoup plus en difficulté qu'eux. Et il m'a dit, je me souvenais toujours de ce silence quand les wagons se sont ouverts, on a vu des gens à Hayon, qui avaient traversé quand même l'Europe, hein. Donc ça, c'était en 29. Voilà. C'est exceptionnel. Ça montre la fraternité quand même de ce métier. Ce métier, il appelle quand même à la fraternité.
Cette solidarité, c'est un thème qui revient souvent quand on parle avec d'anciens mineurs. À l'époque, disent-ils, le racisme n'existait pas, puisqu'au fond de la mine, on était tous noirs. dans les Cévennes cosmopolites, cette tradition d'ouverture à l'autre a perduré, tant bien que mal. C'est en tout cas ce que confirme Francis Ifernet. Il est le secrétaire local de la CGT des retraités mineurs.
Le mineur au fond de la mine, le gars qui travaillait à la taille, ils étaient dans les mêmes conditions. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas tout ça. Donc il n'y avait pas celui qui était arabe, celui qui était français, tout ça. Dans la taille, il y avait une solidarité, ne serait-ce que tout le monde était noir, premièrement, mais il y avait une telle solidarité, y compris pour la sécurité, qu'il ne fallait pas, transiger là. Et en même temps, ça a entretenu des rapports très, très bien du vivre ensemble, puisqu'on parle beaucoup du vivre ensemble maintenant, mais au fond de la mine, c'était vraiment le vivre ensemble. Et ça se retrouvait ailleurs après, ça, c'est quand même des mœurs qui se sont retrouvées après dans la population quand même. Hein.
Est-ce que c'est peut-être cette tradition ouvrière qui a fait que les Cévennes, contrairement à la Camargue, dans le Gard, résistent un peu mieux au Front National, quoi, que ça a tendance à s'effriter?
Oui, c'est vrai que ça fait mal et que y compris dans le bassin minier, bon, ça résiste peut-être certainement mieux qu'en Camargue, puisque peut-être là-bas il y a une population beaucoup plus pieds noirs, je ne sais pas, il n'en sait rien. Mais que dans les Cévennes, mais au niveau des mineurs, c'est vrai que moi, savoir que mineur vote Front National, c'est dur. Parce que voter Front National en pensant régler ses problèmes, les mineurs, ils ont eu l'habitude de régler les problèmes par les luttes, tout ça. Mais moi, quand j'arrive d'une manifestation pour défendre mes droits, mes acquis, pour demander de meilleurs salaires et retraites, je pense que c'est plus efficace que voter Front National. Parce que je pense qu'en votant Front National, ça ne permet pas de faire avancer les choses. Bien au contraire, ça permet aux politiques de bien rester, sans améliorer les conditions de travail.
Ces étrangers qui arrivaient dans les mines de Provence ou des Cévennes venaient pratiquer un métier qui restait dangereux. Malgré les évolutions technologiques, les accidents mortels n'avaient pas cessé. Liliane, femme et mère de mineurs provençaux, nous raconte sa crainte permanente de la catastrophe.
Et vous, vous n'avez pas trop peur pour votre mari, votre fils ?
Ah ben moi j'avais peur tous les jours. Une fois, on était dans la cité, et il y a une bonne femme qui sort en criant. Les femmes, on est toutes veuves. Bon, j'ai dit, là, qu'est-ce que tu racontes? Oui, il paraît que la cage, elle a lâché. Et j'étais tous dedans. Et puis, je ne sais pas ce qui s'était passé, oui. Elle avait lâché, mais il n'y avait que du matériel. Je ne vous dis pas la panique que ça a créée dans la cité.
En 1948, c'est le gouvernement qui avait été pris de panique devant la grande grève des mineurs. 2 ans après la nationalisation de toutes les mines de France, alors qu'il fallait reconstruire le pays, la production était bloquée dans toute la France. En cause, des revendications portant notamment sur la santé et les salaires. À la Grand-Combe, dans les Cévennes, la contestation fut rude, la répression sauvage. C'est à ce sujet que le documentariste Marc Laforêt a consacré son film « Les Révoqués » de 1948 et 1952.
Voici 3 semaines déjà que la production française de charbon se trouve presque complètement annihilée par la grève des mineurs. Et la décision prise par les grévistes de ne plus assurer les services de sécurité aggravait encore les effets de ce mouvement. Le gouvernement se voyait alors contraint de prendre des mesures d'ordre afin de faire assurer par des spécialistes requis l'entretien des mines, vital pour l'avenir de la production française. Malheureusement, de nombreux heurts se produisaient dans diverses régions entre grévistes et forces de police. Un tel développement de la situation, le gouvernement arrêtait des mesures exceptionnelles pour rétablir la liberté du travail et assurer la sauvegarde de notre industrie. Devant les violences commises par certains éléments sur les agents des forces de police, des renforts étaient acheminés rapidement vers les points où les occupations des mines se poursuivaient.
C'était dur, hein, parce qu'avec les CRS, ça chauffait. Hein. Et, alors, ils sont arrivés... Ils nous donnent sortis de notre piquet de grève. Il y a eu la bagarre de partout, quoi.
Alors, je me souviens d'un détail en particulier qui m'avait marqué. Je me rappelle de voir ma pauvre mère, qui était en pleine santé à l'époque, qui avait trouvé une planche et qui tapait sur les CRS à coups de planche.
Eh bien, les CRS, bien sûr, la bataille a été rude, parce qu'il a fallu, à un moment donné, calmer les mères de famille et qui n'auraient pas fait de quartier des CRS. Et par peur, ceci, il faut le dire, eh bien, on sautait le mur de 6 ou 7 ou 8 mètres par endroit.
Grâce à l'initiative des responsables syndicaux, le drame a pu être évité, car les manifestants voulaient jeter les CRS au fond du Puricat. La fureur était telle que les gens, ils n'en pouvaient plus.
Et puis ils ont eu des blessés, parce que quand même, on était équipés comme il fallait. Les coups de matraque, ils en ont pris aussi, parce que chaque fois qu'on pouvait en faucher une matraque, d'ailleurs j'en ai encore une dans ma voiture depuis l'époque. Il y a plus de 50 ans qu'elle est dans ma voiture, cette matraque de CRS. Elle est encore bonne. Et je veux dire, on est arrivé à les faire des guerres pires. Hein. Pardi, ça faisait la deuxième fois qu'il prenait la rouste et il voulait mettre fin à cette situation.
Là, malgré cette belle victoire, de dures journées nous attendaient par la suite, puisque la Grande Combe était envahie par les CRS. La Grande Combe était en état de siège. Et on ne pouvait pas circuler pendant plusieurs jours sans avoir un CRS à cette hausse. Et les arrestations, bien sûr, ont commencé.
J'ai vu, chose que je n'avais pas vue pendant la guerre, mais je l'ai vu de ma fenêtre, les tanks remontés sur Icare par dizaines.
Ils m'ont arrêté, et bon, ben, on était à la gendarmerie, ils nous ont fait un passage à tabac.
J'en prends plein la figure, mais... À ce moment-là, quand ils ont vu que j'avais bougé, ils m'ont dit « Maintenant, tu te déshabilles, tu restes torse nu et tu quittes tes chaussures. » Alors, j'ai obéi. Hein. Et c'est là qu'ils m'ont fait mettre à genoux et, on va dire, les bras en horizontale. Hein. Mais le tout, c'est qu'il fallait que j'avance. Sinon, à mesure, je recevais des coups. Et bon, ben, combien j'ai tourné comme ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire, j'ai resté demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je ne peux pas le dire. J'ai reçu des coups pas mal. Et sur les pieds, il m'avait fait quitter les chaussures pour me taper dans la plante des pieds aussi. Alors j'avais les bras, j'avais un peu partout, quoi. Des coups, ça pleuvait. Bon, à force de faire... Ils se sont calmés et celui qui dirigeait l'interrogatoire, il dit comme ça, en prenant la porte, il dit « Je vais chercher la presse, on va lui presser les doigts. »
Dans les Cévennes, le bilan est lourd. Un manifestant est mort, fauché par un tir de mitrailleuse. Plusieurs mineurs sont incarcérés pour faits de grève sur des périodes allant de quelques mois à quelques années. Ils sont licenciés, ils perdent les avantages sociaux des mineurs et seront longtemps cantonnés à des métiers humiliants. Toute leur vie, ils se battront pour laver leur honneur. Et leur réhabilitation officielle n'interviendra qu'en 2014 par l'entremise de la garde des Sceaux, Christiane Taubira.
Vent du midi s'abat en rafale sur la vallée noire où les arbres ploient leurs bras désolés, fume du gitane. J'ai froid. Une fois de plus, tous les droits de l'homme sont foulés aux pieds, sont jetés à bord. Les maîtres sanglés dans leurs uniformes, j'ai froid. Une fois de plus, la grande injustice, la force imbécile triomphe du droit. Quand la liberté tombe sa pelisse, j'ai froid. Encore une fois, les lettres anonymes, la bêtise épaisse en guise de noix. La salve éclatant au milieu de l'hymne, j'ai froid. Si la bête immonde sort de sa tanière, nous retrouverons le chemin des bois. Mais dans ma valise, un gros poulet vert, j'ai froid. Dans tes yeux soudains, ivre de colère, la révolte éclaire un grand feu de bois. Qu'en fera-t-il donc le tour de la terre? J'ai froid. Qu'en fera-t-il donc le tour de la terre? J'ai froid.
C'était Jean Ferrat, j'ai froid.
Ça vient pas de nulle part.
Vous écoutez Radio Grenouille et ça vient pas de nulle part. Aujourd'hui, une petite histoire du charbon du Sud.
La grande grève de 1948 ne fut pas la dernière. Bien vite, cependant, les revendications des mineurs allaient quitter le terrain salarial pour se placer sur celui de la survie du métier. Car dès 1960, avec le plan Jeanneney, l'État programmait une baisse de la production du charbon. Ce choix politique allait être confirmé jusqu'à la fermeture de l'ultime mine de charbon de France, en Lorraine, le 23 avril 2004. Dans les Cévennes, les dernières mines de fond ferment au milieu des années 1980, même si des exploitations à ciel ouvert tourneront jusqu'au début des années 2000. Quelques années plus tôt, en Provence, les mineurs de Gardanne se battaient encore pour éviter la fermeture de leur puits. C'est en tout cas ce que rapportait le journal télévisé de France 2 du 6 mai 1994.
Fosse en flammes, c'était ce matin vers 10h. Sur le quai minéralier, les mineurs viennent d'intervenir. Saccage des machines et incendie. En quelques minutes, ce site de chargement de charbon est rendu inutilisable, entre 10 et 20 millions de francs de dégâts.
Je suis vraiment très très pessimiste là, j'ai des dégâts très très importants. Je pense que nous avons toute une installation complète qui est arrêtée pour plusieurs mois.
200 mineurs environ venus de Gardanne et des Cévennes. Leur objectif, dire non au charbon d'importation et le dire de manière musclée, faute d'être entendu.
Si on n'arrive pas à avancer en discutant, eh ben on emploie les moyens. Je crois qu'ils sont tout à fait justifiés pour qu'on ait enfin le débat que l'on demande au niveau de l'Assemblée nationale sur quelle politique énergétique avec le charbon français pour l'avenir et pour nos emplois.
Malgré cette combativité fracassante, la dernière mine de charbon fermera en 2003 à Gardanne. Mais au moins, les mineurs avaient pu négocier des conditions de départ avantageuses, comme le décrit Lucille Decombe du musée de Gréasque.
Il y a eu un plan social, une sorte de pré-retraite spécifique pour les mineurs, qu'on appelle le congé charbonnier. Dès qu'ils avaient un certain nombre d'années d'ancienneté et 43 ou 45 ans, ils avaient la pré-retraite avec une bonne part de leur brut.
Du charbon, il y en avait encore beaucoup dans les sous-sols des Cévennes et de la Provence. Ce n'est donc pas par manque de matières premières que l'exploitation s'est arrêtée. La raison officielle était plutôt économique. En 2004, sur France Inter, le patron des charbonnages de France, Philippe de la Doucette, expliquait que le charbon français n'était pas rentable.
Le charbon d'Australie, importé d'Australie, voyage compris, coûte 4 fois moins cher en France que le charbon qui est sous nos pieds. Quelles sont les raisons des coûts inférieurs du charbon à l'étranger?
C'est assez simple. En vérité, c'est une question géologique. Il se trouve que les veines de charbon en France, qu'on exploite depuis maintenant, comme on le disait tout à l'heure, 3 siècles, mais ces veines de charbon ne sont pas aussi favorablement disposées chez nous qu'elles ne que le sont dans d'autres pays. Même, c'est pas la peine d'aller en Australie. En Allemagne, déjà, les couches de charbon, du lignite, par exemple, qui est exploité en surface, le lignite, nous l'avons exploité récemment à Gardanne, à 1200 mètres de profondeur. Donc c'est cette différence, en fait, qui explique pourquoi un charbon est plus ou moins cher. En Australie, ce sont des découvertes. Les découvertes, c'est quoi? C'est l'exploitation, comme dans des carrières, à ciel ouvert. Et il est évident que ça coûte beaucoup moins cher que d'exploiter à 1000 mètres de profondeur.
Mais les raisons de la fin du charbon sont aussi politiques. Dès les années 1960, le gouvernement avait fait le choix du nucléaire et du pétrole. C'est un peu l'analyse d'Alain Tassera, de la CGT des mineurs retraités en Cévennes.
La politique en France, c'était que les trusts du pétrole fassent ce qu'ils veulent. Donc ça, le charbon les gênait. Ils investissaient en même temps dans des pays étrangers, dans des compagnies minières étrangères, où là, ils avaient plein pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité, de mauvais salaires, des conditions de travail invivables, etc., etc. Alors que nous, en France, on avait les divers combats qui ont été menés avaient permis d'améliorer considérablement la profession minière et les gens qui travaillent à la mine.
Et puis, pour Laurent Aiglon, de la Maison du Mineur à la Grand-Combe, il y a un autre type de coût qui n'a pas été pris en compte lorsqu'on a pris la décision de fermer les mines.
S'il y a eu un coût humain dans toutes ces fermetures, il y a eu une destruction, parce qu'on a détruit quand même un savoir-faire, on a détruit une société qui fonctionnait bien quand même. Donc je ne sais pas si on l'a bien vu ça. Je ne sais pas si on a bien vu le coût que ça aurait 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard.
Quoi qu'il en soit, cette époque est désormais bel et bien révolue. Impossible aujourd'hui d'aller, ne serait-ce que se promener, au fond d'une mine. Les accès ont été bouchés, comme l'indique Lucille Decombe du musée de Gréasque.
Avec les années 2000, quand on rend la concession à l'État, parce qu'on était encore dans ce régime de concession malgré tout, même si c'était une compagnie nationale, on rend la concession en bouchant pour éviter les problèmes de que l'État se retrouve avec des responsabilités ingérables et des risques de l'entretien cher et des risques. Donc on rebouche les puits, on remplit les galeries quand on peut, ou on laisse l'eau ennoyer les galeries pour stabiliser le terrain de façon convenable. Et du coup, on ne peut pas aller dans ces vraies galeries, c'est pas possible.
Ne plus descendre au fond, c'est un crève-cœur pour de nombreux anciens mineurs. Leur métier était difficile et pourtant, aujourd'hui qu'il a disparu, c'est avec une immense nostalgie qu'ils s'en souviennent. À la Grand-Combe, dans les Cévennes, c'est encore plus flagrant, puisque la fin du charbon a signé le début du chômage de masse et de la pauvreté. Alors, quand les mines ont fermé, quand les puits ont été dynamités, il y a bien des mineurs qui ont pleuré.
Ben, ils ont mal vécu dans la mesure où ils avaient été élevés dans cet état d'esprit. Le charbon, c'était tout pour nous. Hein. C'était la Grand-Combe, c'est une mono-industrie. Il n'y avait pas d'autres industries, il n'y avait pas d'autres perspectives. Et puis, on avait développé une identité propre quand même. On avait développé une société quand même, avec ses codes, avec ses loisirs. C'est une ville qui était prospère. Hein. Donc on avait notre harmonie, on avait notre école de musique, on avait des cinémas, on avait quand même une vie culturelle quand même à la Grand-Combe. Donc on savait que la fermeture, elle allait condamner cette vie qui avait plus d'un siècle. Alors c'est certain que les mineurs se sont battus jusqu'au bout pour sauvegarder leur métier. Parce qu'ils savaient que ce qui allait disparaître, c'était plus que leur travail, c'était leur métier. Ils étaient un peu conscients de ça. Donc ils se sont battus jusqu'au bout, sachant que leurs enfants, il y avait une interrogation sur qu'allaient devenir leurs enfants, et il faudrait que leurs enfants partent des Cévennes. Bon, c'est toujours un arrache-cœur de devoir quitter sa région, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Ça s'est vraiment passé?
C'est ce qui est arrivé, il y a eu un exode important. Hein. On est passé de 17 000 habitants à 5 000 habitants. Alors aujourd'hui, on remonte un petit peu, hein, on remonte. Ça se stabilise, mais beaucoup de gens ont dû partir. Ils ont parti parce qu'il n'y avait plus de perspective. Voilà. Donc c'est quand même, ça a été... Alors il y a des gens qui reviennent maintenant, parce que bon, après, à la retraite, ils reviennent dans le pays où ils sont nés, où ils ont vu, voilà. il y avait quand même des valeurs quand même à la Grand'Combe, des valeurs de... J'en parlais tout à l'heure avec les visiteurs, il y avait des valeurs de solidarité quand même, qui étaient au fond, mais qui transparaissaient au jour, même entre voisins. Il y avait ces relations quand même de fraternité, même entre voisins.
Aujourd'hui, c'est encore une ville sinistrée, la Grand'Combe, au niveau social, au niveau économique.
Ben, c'est une ville qui souffre, c'est une ville qui souffre parce qu'elle a une problématique qui est difficile. Elle avait une monnaie industrielle, elle est née du charbon. Le charbon, il n'y en a plus. Enfin, il y en a, mais il n'est plus exploité. Donc la problématique, elle est difficile. Elle est plus difficile que dans une ville où il y avait une multi-activité, où il y a une industrie qui ferme, mais l'autre reprend le relais. Donc je pense que les efforts sont faits actuellement pour que cette ville se relève. Hein, on fait tout, au niveau touristique, ou même au niveau... du parc régional d'activité économique là, qui se met en place. Donc tout est fait, mais le contexte national n'est pas le meilleur actuellement.
Aux mots durs de progrès, de rentabilité, qui ont frappé de plein fouet ton cœur minier, monde calculateur, faisant fi du passé, te voici dame noire, bien attristée. Te souviens-tu du temps où tout adolescent tu me prenais chez toi si gentiment? Haute cité de Ribes, le plus beau des balcons, je te regardais vivre avec passion. Grand'Combe d'après-guerre, à l'accent polonais, vous cassiez tous ensemble le rocher. Grand'Combe. Wagonnet de sueur lentement s'étirait, rempli de cristaux noirs qui scintillaient. Poussé par la fumée, ta chanson de métal montait jusqu'à la dame de Laval. Visage du labeur, au danger côtoyé, vous a-t-on simplement remercié, Grand'Combe. Chevalement dressé comme des tours de guet, veillant jalousement sur vos foyers. Petite lueur blanche accrochée à vos fronts, tout en bas étoilait votre horizon. Vos regards rayonnants retrouvant le soleil, gueule noire au matin qui s'émerveille, Grand'Combe. Réseaux entrelacés, aiguillages d'acier qui ont marqué ton front à tout jamais. Grand-mère aux blouses grises, aux chignons bien rangés, faisant sécher vos draps immaculés. Bannière de lumière au grand vent déployé, message d'espérance et d'amitié. Grand-Combe. Petit jardin du fond, y avait pas de gazon, les iris y tenaient leur réunion. Vigne près du gardon que l'automne empourprait, offrant la prejus noire bue dans l'année. Sac de toile sandale aux lanières rivées, mon Dieu, quelle leçon d'humilité, Grand'Combe. Quand le petit œil vert du poste s'éclairait, la soupe était tirée, fallait rentrer. Veillée anniversaire à jamais disparu, le soir sous la tonnelle au banc tordu. Te souviens-tu, François, me serrant dans tes bras, étant heureux d'être aussi noir que toi, Grand'Combe. Ayant vieilli si vite dans ce monde confus, souvent je pense à toi le long des rues. Tu
du jardin de l'enfance, du bonheur entrevu. Dans tes yeux noirs, je pleure ce qui n'est plus. Grand comble de sagesse au message reçu, simplicité des hommes que j'ai connus. Je te demande encore, si tu le veux, ma foi, la belle dame noire, guide mes pas.
Dame noire de Michel Berthet sur Radio Grenouille. Ça vient pas de nulle part, on repart au présent. Depuis 2004, il n'y a donc plus de production de charbon en France. Pourtant, à Gardanne, il existe encore une centrale thermique à charbon. Elle produit de l'électricité à partir de houille importée. Mais la multinationale allemande E.ON, qui la gère, veut changer de combustible. Son idée, produire l'électricité en brûlant de la biomasse. Sur le papier, l'idée est séduisante, le bois est une énergie renouvelable. Le CO2 qu'il libère en brûlant est recapté plus tard, quand on replante d'autres arbres. Et puis, économiquement, ce projet serait intéressant. Il pourrait permettre de sauvegarder des emplois et de booster la filière bois dans le sud de la France, elle qui n'est pas encore très structurée. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Juliette Palmade est allée rencontrer à Marseille un farouche opposant au projet de la société E.ON. C'était Pierre Calfa du collectif SOS Forêt du Sud. Et la première question qu'elle lui a posée, c'était « Qu'est-ce que c'est que la biomasse ?»
Quand on dit du bois, de la biomasse, il y a du bois. Il reste plus d'une dizaine de pourcents de charbon, malgré tout, pour améliorer la combustion de tout ça. Et quand on parle du bois, il y a à la fois du bois des arbres, enfin, ce qu'on peut entendre par le bois, des déchets verts, et aussi des résidus industriels de bois, c'est-à-dire des bois traités, des meubles, etc.
Donc, la question que l'on peut se poser, c'est d'où viendra ce bois et en quelle quantité ?
Tout ce qu'on sait, enfin tout ce qui est affirmé en tout cas par E.ON, c'est que la moitié du bois viendra de l'exportation, donc par le port de Foss, et le reste sera prélevé dans un rayon Languedoc, Rhône-Alpes, PACA, et en Corse. Tout récemment, ils ont rajouté la Corse. Et tout ça arrivera par camion, et ça veut dire qu'il y aura tous les jours un camion toutes les deux minutes. Un camion plein et un camion vide toutes les deux minutes. Et 850 000 tonnes de bois, ça représente en gros, là, les bagarres de chiffres, c'est 20 000 hectares. C'est-à-dire que 20 000 hectares de forêt seront consommés par an, tout confondu. C'est supérieur au taux de croissance de la forêt actuelle. C'est trois fois l'utilisation du bois actuel dans la région PACA.
850 000 tonnes par an pour un camion toutes les deux minutes, ça explique qu'il y ait des opposants. Précisons simplement que ce qui est critiqué ici, ce n'est pas le concept de biomasse en soi, mais l'échelle du projet, jugée démentielle. Et c'est contre ce dernier que le collectif SOS Forêt du Sud s'est justement créé. Il a ciblé trois types de critiques, sanitaires, environnementales et économiques.
Lorsqu'on brûle du bois, comme lorsqu'on brûle du charbon, on émet tout un tas de produits toxiques. Tout un tas de métaux lourds. Ce qu'il y a de beaucoup plus inquiétant sont ce que l'on appelle les particules fines. Ces particules, comme celles qui sont émises par des feux de cheminée, par des barbecues, par des diesels, par des industries classiques, par des usines à charbon aussi d'ailleurs, ont la caractéristique, parce qu'elles sont très très fines, d'être ingérés et de passer à travers les tissus, les poumons, etc. Et sont facteurs avérés de diverses maladies respiratoires, etc., de cancer.
Et à cela, il faut ajouter les impacts environnementaux qui sont aussi considérables. Selon Pierre Calfa et le collectif SOS Forêt du Sud, ces impacts ont été totalement sous-estimés dans le dossier de l'enquête publique approuvé par le préfet. En effet, la biomasse, on l'a dit, c'est du bois. Il faudra donc déboiser en masse. E.ON met en avant la théorie de la carboneutralité quant au déboisement massif dans nos régions, c'est-à-dire un arbre coupé égale un arbre planté. Donc le CO2 dégagé par la combustion de l'arbre coupé sera recapté par l'arbre planté. Sauf que...
Dans l'absolu, c'est vrai. Aux réserves suivantes près, encore faut-il qu'il y ait un arbre qui soit replanté. Et même si l'arbre est replanté dans de bonnes conditions, etc., il faut entre 30 et 40 ans pour qu'il repousse. Ce qui veut dire que pendant les 30 ou 40 ans qui suivent l'abattage de l'arbre, ben le CO2, il reste dans l'atmosphère. Or, compte tenu de l'état de la planète, de tout ce qui se dit sur le CO2, on ne peut plus attendre 30 ou 40 ans. Et l'usine d'E.ON a eu une autorisation pour 20 ans. Ce qui veut dire que dans les 20 ans d'exploitation de l'usine d'E.ON, le CO2 sera émis dans l'atmosphère et ne sera pas recapté. Donc on n'est absolument pas d'accord avec cette théorie de la carboneutralité aux échelles d'un tel projet.
Et ce n'est pas tout. D'après Pierre Calfa, il y aura bien d'autres impacts négatifs sur l'environnement.
C'est que lorsqu'on coupe des forêts, les sols s'érodent. Il y a des ruissellements plus rapides. Dans les Alpes de Haute-Provence, en particulier, au début du XXe siècle, il y avait des inondations terribles parce que les sols étaient dénudés par les moutons, par machin. Et donc il y a eu des tas de replantations de forêts, notamment du côté du Lozé, Col Saint-Jean, etc. C'est vrai également dans les Cévennes. Toutes ces plantations qui datent du début du XXe ont permis de réduire considérablement les inondations en aval, parce que ça retient l'eau. Et donc, si on abat, et au niveau industriel, au niveau de quantité qu'ils sont, ils ne vont pas s'amuser à couper les arbres à 50 cm du sol, à garder les lichens et tout ça. Ce sont des machines qui vont probablement tout racler. Donc, avec des risques évidents, certains d'érosion des sols, aggravation des ruissellements et inondations en aval. Ça, c'est inéluctable. Sans parler de la biodiversité, hein, bon, tout ce qui se réfugie dans les, tout ce qui vole, rampe et court dans les forêts, et puis l'impact aussi sur les paysages.
Sur le plan environnemental, les perspectives ne sont donc pas des meilleures, et en matière économique non plus. E.ON a besoin d'une quantité faramineuse de bois. La loi de l'offre et la demande se met donc en place. C'est-à-dire que les prix grimpent, ce qui impacte les usines locales. Par exemple, la papeterie de Tarascon se voit déjà obligée d'abandonner son approvisionnement local pour se tourner vers l'importation de bois venant du Venezuela. Et ce n'est pas que la papeterie qui est concernée, mais tous les acteurs utilisant cette ressource. C'est donc tout un secteur économique qui est mis en danger par un projet que l'État subventionne largement.
Le contrat qui a été passé entre l'État et E.ON prévoit pendant 20 ans un rachat du mégawattheure à 115 euros le mégawattheure. Or, aujourd'hui, le mégawattheure vaut beaucoup moins cher sur le marché. En gros, c'est entre 50 et 80% de plus que ce que l'on peut trouver sur certains marchés.
Certaines centrales pratiquent la cogénération, c'est-à-dire qu'elles produisent non seulement de l'électricité, mais aussi de la chaleur qui est utilisée pour chauffer des bâtiments. Ici, ce ne sera pas le cas.
E.ON n'a pas prévu dans son dossier que nous attaquons de la cogénération. Donc ils vont simplement produire de l'électricité. Ça veut dire un rendement de 33%. Ce qui veut dire que sur 3 arbres battus, il y en a 2 qui repartent en fumée.
Les partisans de cette centrale défendent ce projet avec la carte de l'emploi. Selon eux, cette transformation permettrait de conserver 400 postes. Mais là aussi, SOS Forêt du Sud a une rectification à apporter. L'unité transformée regrouperait seulement 120 emplois, qui initialement devaient être conservés. Finalement, il ne serait plus que 80. Enfin, en pensant plus large, vu qu'il s'agit ici d'un projet d'exploitation industrielle de la filière bois, c'est l'ensemble des petits exploitants et des emplois liés à ce type d'activité qui pourraient être affectés de manière négative.
En région PACA, il y a à peu près 250 petites centrales de biomasse qui sont en général gérées par des collectivités, qui étaient des centrales de biomasse pour lesquelles on est tout à fait favorable, parce qu'elles sont locales. Elles vont prélever du bois de façon prudente, parce que c'est leur bois, c'est leur paysage, c'est leur site, c'est leur biodiversité, et que ce sont des centrales qui font ce que l'on appelle la cogénération, c'est-à-dire qui produisent à la fois de l'électricité et qui produisent de la vapeur avec laquelle on peut chauffer une école, une piscine, un stade ou n'importe quoi.
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour cette fois-ci. À la technique aujourd'hui, c'était Sébastien Gély. Pour le reste, cette émission a été préparée par Claire Rivière et Juliette Palmade. Pour en savoir plus sur le charbon du Sud, vous pouvez visiter la page de l'émission sur le site de Radio Grenouille. Vous y trouverez le podcast et tout plein de liens et de références. Le 3 mai prochain, vous pourrez également participer à la marche populaire organisée par le musée de la mine, à Gréasque, au puits d'Élie-Oisel à partir de 8h30. Pour plus d'infos, vous pouvez aller voir sur Facebook. Un grand merci à Chloé Pelleret pour l'intendance, à Lucille Gallardo qui a tenu le micro avec brio, à Florence, Jacques et Anthony qui ont prêté le leur. Merci à toutes les personnes que nous avons interviewées, notamment Liliane pour ses anecdotes et Marc Jouve pour ses documentaires. Merci encore au CMLO et à Radio Grille Ouverte à Alès. Merci enfin à toute la rédaction du journal Midi Libre à Alès ainsi qu'à Michel Grasset. Ils ont largement inspiré cette émission que l'on dédiera à la mémoire d'Edon Arcangioli, mineur révoqué en 1948, disparu il y a quelques semaines à la Grand Combe. On se retrouve dans un mois, mais avant de vous quitter, je voudrais saluer tout spécialement l'association des Amis de la Drecht à Alès dans le Gard. Depuis 10 ans, ces anciens mineurs et syndicalistes se battent pour que soit installée, à la place d'un puits de mine dynamité, une exposition permanente dédiée à l'histoire minière et aux souvenirs d'une lutte sociale majeure, celle de la Drecht. La Drecht, ce furent 13 mois d'occupation de la mine en 1980 et pour résultat, l'obtention d'un sursis avant la fermeture de celle-ci. Les subventions sont arrivées, les panneaux sont prêts, mais pour des raisons obscures, le maire d'Alès fait traîner l'histoire. Max Roustan, si tu m'entends, à la prochaine.